RCF. RCF, Fabrice Gironnet.
Il est 18h10 et vous êtes sur RCF, c'est l'heure du 18-19 en région. On va tout de suite rejoindre Alexis Claudretz.
Très heureux de vous retrouver pour vous accompagner ce mercredi 18-19 en Champagne-Ardenne, magazine régional. Vous le savez, généralement, le mercredi, il est consacré à une émission spéciale autour d'une thématique ou avec des invités autour d'un sujet en particulier. Comme nous étions hier depuis Charleville-Mézières pour le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, eh bien, les rubriques que vous retrouvez habituellement le mardi, on vous les propose exceptionnellement cette semaine, le mercredi. C'est pourquoi, dans quelques instants, Jean-François Boulanger sera avec nous pour un nouveau numéro de Mémoire Chrétienne, Saint-Jacques de Compostelle, épisode 3. Deux maires pour le prix d'un, puisque vous n'avez pas entendu celui d'hier. On sera avec François Moura, qui nous emmènera dans sa commune de Vandeuil, dans la Marne, dans la montagne de Reims. Mais on ira ici dans les Ardennes, à la rencontre de Christophe Heller, qui est le maire, lui, de Villers-sur-Barre. Des initiatives en région, il y en a, et pas qu'un peu, ce qui nous permettra une rencontre avec Henri Didonna, qui évoquera bord de Seine du côté de Vitry-le-François, avec des rendez-vous qui sont fixés dès demain. On parlera sport aussi dans ce magazine régional, ce mercredi avec Laurent Duclos pour évoquer la 6e édition de la course 4C du côté de Châlons-en-Champagne. Le rendez-vous, c'est ce samedi 23 septembre. Ça en fait des choses à cocher dans l'agenda. Mais nous tout de suite, on commence avec Jean-François Boulanger qui est avec nous en studio. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Nous avons vu lors de notre dernière émission que le pèlerinage avait connu un certain déclin à l'époque moderne et au début du 19e siècle. Cependant, le pape Léon XIII saisit l'opportunité provoquée par la redécouverte des reliques de Saint-Jacques en 1879 pour relancer le pèlerinage par la lettre apostolique de Somnipotens du 1er novembre 1884. Son but est rassembler les Espagnols divisés entre catholiques et libéraux autour d'un saint dont le nom est associé à la période de la Reconquista et de la naissance de l'Espagne moderne. Pourtant, il faudra en gros un siècle pour que le pèlerinage ait l'importance et la signification qu'on lui connaît aujourd'hui. Jean-François, ça en fait des explications.
Eh oui, absolument, c'est exactement cela. Vous avez rappelé le but que se fixait Léon XIII avec sa lettre apostolique sur Saint-Jacques.
Mais pour les auditeurs qui voudront en savoir plus, on les invite à réécouter la chronique de la semaine dernière dans laquelle vous le faites beaucoup mieux que moi.
Ah ben, bien sûr, ils peuvent le faire sans aucun problème. Et donc la lettre, au départ, n'avait pas eu l'effet escompté parce que les Espagnols restaient plus que jamais divisés. Et cette division va atteindre son point culminant une trentaine d'années ou une quarantaine d'années après, avec la guerre civile, ce qu'on appelait en France la guerre d'Espagne, qui va se dérouler de 1936 à 1939, qui a été marquée, ainsi que la période qui l'a précédée, par une forte et violente vague d'anticléricalisme du côté républicain, notamment de la part des anarchistes, qui constituaient un courant politique puissant en Espagne, notamment chez les ouvriers en Catalogne et chez les ouvriers agricoles en Andalousie. Et cette guerre d'Espagne se termine par la victoire du général Franco. Le nouveau régime, celui de Franco, a des liens forts avec la hiérarchie catholique espagnole, mais pas forcément avec tous les catholiques espagnols, en tout cas certainement pas avec le clergé basque. Et donc le régime franquiste va prendre des mesures qui vont favoriser le pèlerinage. Et Saint-Jacques va retrouver un statut de quasi-patron de l'Espagne. Dès 1937, la cérémonie de l'offrande à Saint-Jacques, que la République espagnole avait supprimée et rétablie par Franco dans les terres qu'il contrôle. Et plus tard, en France, la défaite provoquant l'arrivée au pouvoir du régime vichiste et Vichy rompant avec le principe de la séparation de l'Église et de l'État, en 1943, l'ambassadeur de France en Espagne se rend au pèlerinage de Saint-Jacques et remet un don au nom du maréchal Pétain, chef de l'État français.
J'allais dire, Jean-François, c'est une situation qui semble s'inscrire dans la continuité historique de l'Espagne médiévale. Est-ce cela qui va provoquer le regain spectaculaire du pèlerinage jusqu'à aujourd'hui?
Non, parce que la situation a changé du tout au tout à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Certes, le pèlerinage, dans un contexte plus apaisé, avait rencontré un succès croissant en Espagne. Par exemple, en 1948, l'Action catholique espagnole avait rassemblé à Compostelle 60 000 jeunes, mais le régime franquiste est mis au banc des nations après la fin de la guerre en raison de ses liens avec l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie. Et notamment, en mars 1946, la France va décréter la fermeture de la frontière avec l'Espagne à la suite de l'exécution par le régime franquiste d'un opposant qui s'appelle Cristino Garcia, qui avait libéré le département de l'Ardèche et le département du Gard avec la résistance. Et donc l'Espagne, le pèlerinage devient impossible.
Mais vous décrivez ici une Espagne isolée du reste de l'Europe. Pourtant, un peu plus tard, dans les années 60 notamment, cette même Espagne se transforme en plage de l'Europe où viennent bronzer touristes français et allemands. Et depuis, j'ai l'impression que ça continue comme ça.
Absolument. Hein, c'était quelque chose de très nouveau à l'époque. Hein, on profite de la faible valeur de la monnaie espagnole. Donc l'Espagne va sortir très progressivement de son isolement. Et à ce moment-là, le pèlerinage de Saint-Jacques peut reprendre hors d'Espagne sans être, si je puis dire, plombé par les liens avec l'Allemagne nazie qui existait auparavant. Mais ce n'est qu'en 1949 qu'a lieu le premier pèlerinage d'après-guerre organisé par l'abbé Brantôme, directeur des pèlerinages du diocèse du Mans. La même année est créée à Paris une société des Amis de Saint-Jacques qui va jouer un rôle important jusqu'à aujourd'hui dans le développement du pèlerinage et de sa notoriété. La sortie de l'isolement de l'Espagne se fait en deux étapes. En 1948, le 10 février, la frontière avec la France est rouverte. En 1951, l'Espagne entre dans l'UNESCO. En 1953, les accords de Madrid permettent l'installation de quatre bases américaines sur le territoire espagnol dans le cadre de la guerre froide. Et enfin, en 1954, l'Espagne entre à l'ONU. Dans ce nouveau contexte, le pèlerinage peut se développer sans entrave, dans un contexte qui est en train de changer aussi bien sur le plan religieux que dans un contexte culturel plus large.
J'avoue que j'ai un petit peu de mal à vous suivre, Jean-François. De quel contexte culturel parlez-vous ?
Eh bien, on va sortir l'Espagne là pour revenir en France, où peu à peu, la renommée du pèlerinage augmente et finit par dépasser largement le milieu des catholiques pratiquants. En effet, à la fin des années 1960 et dans les années 70, alors que la société de consommation est à son apogée et qu'elle commence à être contestée par certains, des voix peu nombreuses mais qui rencontrent un écho grandissant auprès du grand public cultivé manifestent un intérêt certain pour faire un pas de côté, d'abandonner l'idole voiture automobile pour partir à pied à la rencontre non seulement de paysages splendides ou des chèvres cévenoles, mais aussi de traditions culturelles un peu oubliées qui sont très diverses.
Non pas qu'on ne veuille pas vous croire sur parole, mais avez-vous quelques exemples ?
Alors, je commencerai par donner l'exemple d'un écrivain qui va justement chercher dans ses périples un autre passé que celui de l'Occident chrétien, c'est Jacques Lacarrière, qui est mort en 2005 et qui, en 1974, a publié un livre qui s'appelait « Chemin faisant, 1000 kilomètres à travers la France d'aujourd'hui » et qui relate le voyage qu'il avait fait en 1971 des Vosges au massif des Corbières. Et il réitère en 1976 en publiant « L'été grec », qui est un récit de ses nombreuses marches à travers la Grèce qui lui permettent de se confronter concrètement aux traces de la civilisation antique grecque dans ce qu'elle a encore de plus vivant dans la Grèce des années 70.
Bon, quelque part, aujourd'hui, nous nous sommes éloignés du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, alors, aussi bien géographiquement que spirituellement.
Voilà, on va y revenir en parlant d'un livre qui est publié en 1978 par deux journalistes très connus à l'époque, Jean-Noël Gurgan et Pierre Barret, qui s'appelle « Priez pour nous à Compostelle ». Et avec eux, le centre d'intérêt se déplace du pèlerinage au pèlerin, puisque son sous-titre est « La vie des pèlerins sur les chemins de Saint-Jacques ». Et l'originalité de ce livre est le fait qu'il s'appuie à la fois sur l'histoire, les auteurs ont reçu l'aide de la fameuse Société des Amis de Saint-Jacques que j'évoquais tout à l'heure, et sur une expérience pratique du pèlerinage. Commençons par l'aspect historique. La rigueur historique n'est pas toujours au rendez-vous, mais, je cite, « nous avons zigzagué sans trop de scrupules à travers 8 siècles d'histoire, documents, travaux, recherches et communications pour la plupart. Nous y avons eu accès par la Société des Amis de Saint-Jacques qui a établi la bibliographie. » Et l'expérience pèlerine, c'est un voyage qu'il rapporte dans un carnet de route de 40 pages qui est placé à la fin de l'ouvrage et qui a servi de base pour enjoliver les quelques récits de pèlerins que nous avons conservés et pour raconter avec un grand talent journalistique la vie des millions de pèlerins qui ont jadis parcouru les routes de Saint-Jacques. Et c'est sans doute ce style très vivant et le savant mélange entre leur vécu, des citations des quelques récits historiques conservés et les fruits de leur imagination qui a fait le succès du livre et pousser certains lecteurs à se mettre eux aussi en route sur le chemin de Saint-Jacques. Le livre a donc eu un statut intermédiaire entre l'ouvrage savant, ce qui lui vaut d'ailleurs une critique très favorable de l'historien médiéviste Jacques Le Goff sur France Culture, et l'ouvrage grand public qui vaut à ses auteurs d'être accueilli avec une très grande sympathie par Jacques Chancel dans la célèbre émission Radioscopie.
Cette période est donc en tournant, on peut le dire.
On peut le dire parce que depuis, les témoignages littéraires de pèlerins se sont multipliés, on en citera quelques-uns la prochaine fois, et le pèlerinage vit aujourd'hui une double vie, celle d'une institution millénaire, toujours vivante, et honorée, on le verra aussi la prochaine fois, par la visite de plusieurs papes, et aussi celle de multiples aventures spirituelles individuelles qui ne se réclament pas forcément explicitement du catholicisme et où le souvenir de Jacques l'apôtre semble n'entrer que pour une part limitée. Et c'est ce que nous verrons donc la prochaine fois.
On se retrouvera pour l'épisode 4 un petit peu plus tard, Jean-François Boulanger.
Avec
très
plaisir.
Bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
Tous les jours, un maire vous parle dans le magazine régional. Celui de ce mercredi, vous le connaissez avec d'autres casquettes sur RCF France-Ardennes. Et même tous nos auditeurs en région le connaissent certainement un petit peu de nom. François Mourat est avec nous en studio, plus précisément avec vous Jean-Pierre.
François Mourat, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous connaît bien sûr sur RCF, mais c'est l'occasion aujourd'hui de présenter un peu votre commune, la commune de Vendeuil, géographiquement, pour nos amis ardennais qui savent pas trop, le nombre d'habitants, et vous êtes maire depuis combien de temps?
La commune de Vendeuil est située à 18 km à l'ouest de Reims, sur une route bien connue des Marnais, la RN31, donc direction Fismes-Soissons. La commune de Vendeuil est une commune à la fois agricole, viticole, mais qui maintenant héberge beaucoup de gens qui travaillent à Reims, puisque nous ne sommes pas loin, hein, on est à Reims assez rapidement. Et puis, la commune de Vendeuil comporte 200 habitants. Je suis maire depuis 1983, ça fait 40 ans cette année, mais j'ai pas vu le temps passer.
Ça passe très vite forcément parce que c'est quand même très prenant cette activité de maire. Et vos motivations, on vous a demandé, c'était dans votre ADN, vous avez accepté finalement.
J'y suis arrivé par hasard. Tout simplement, je venais très souvent à Vendeuil, je participais aux activités, la fête à Vendeuil, je préparais avec les jeunes du Vendeuil à l'époque, hein, puisque j'avais entre 10 et 15 ans. Et puis donc, tout doucement, je m'étais bien intégré au village. Et un jour, il y a eu un problème, un gros problème d'alimentation électrique que les élus en place n'arrivaient pas à régler. Alors, comme j'étais un peu introduit à la chambre de commerce, on m'avait dit, François, faut que tu te présentes, tu vas aider, etc. J'étais pas très chaud. Je m'étais mis 15e sur une liste où il en faut 11, en se disant, je serais pas élu. Et puis, j'ai été élu et il s'est trouvé que le maire et les adjoints anciens n'avaient pas été, eux, réélus. Donc, on s'est retrouvé autour de la table en se demandant, qui c'est qui va être maire? Alors, les copains à l'époque, j'étais naïf, m'ont dit, vas-y, on t'aidera.
Mais ça arrive souvent qu'on dise ça.
Et puis après, de fil en aiguille, j'ai été maire. Et puis il s'est trouvé que pendant mon premier mandat, j'étais très ami avec le maire de Joncherie de l'époque, qui était Max Malatret. On a eu le projet de la déviation de Joncherie qui est arrivé. On était tellement impliqués dans le dossier qu'on s'est dit, il faut qu'on se représente parce qu'il faut qu'on le suive. S'il faut mettre des nouveaux courants, ils vont repartir à zéro, ça sera dommage. Et puis bon, ça s'est fait de fil en aiguille. Le troisième mandat, j'ai été suscité pour être président d'une communauté de communes. Et puis bon, les collectivités se regroupent de plus en plus. J'ai continué. Voilà.
Comment peut-on caractériser Vendeuil aujourd'hui, le type d'activité, puis surtout les habitants, des jeunes, des retraités, des viticulteurs?
Alors, j'ai vu la mutation de Vendeuil en 40 ans. Quand je suis arrivé, c'était essentiellement agri-viti. Il y avait encore 4 ou 5 fermes, il y avait encore une dizaine de vignerons, et relativement peu de gens qui travaillaient à l'extérieur, un petit peu, qui allaient surtout vers Reims, la parquetterie, je sais pas si ça vous dit quelque chose, et ensuite, la verrerie mécanique, qui était un grand employeur du secteur. Et puis, tout doucement, au fil du temps, les fermes se sont concentrées, maintenant il n'y en a plus qu'une ou deux, et les agris ne sont pas que agris, ils sont agri-viti. Les viti, il y en a encore à peu près une dizaine, et puis le reste sont des gens qui sont soit retraités, soit vont travailler à Reims ou à Muson ou dans les environs.
Alors les communautés de communes, elles sont venues progressivement,
oui.
Et puis il y a eu le Grand Reims. Mm-hmm. Ces regroupements ont forcément modifié le rôle du maire, et il y a beaucoup de maires, pas tous, pas vous, mais qui disent, bon, est-ce qu'on est encore le patron chez soi? Est-ce que le maire est encore, d'une certaine façon, le patron quand même dans sa commune?
Alors, le fait d'avoir des regroupements des communautés de communes a généré un événement important, c'est ce qu'on appelle le transfert de compétences. C'est-à-dire que les compétences que les maires exerçaient, qui étaient pratiquement totales et multiples il y a encore, quand je suis arrivé, il y a 40 ans, tout doucement, se sont vues transférer vers des intercommunautés où les patrons n'étaient plus les maires. Donc effectivement, les maires ont pu ressentir qu'ils avaient moins de pouvoir. Ceci étant, les gens continuent continuait à venir les voir pour ces problèmes-là. Donc il était important de les intégrer dans cette intercommunité et que, à mon avis, quand l'intercommunité se faisait, il fallait associer fortement les maires, ce qui est le cas actuellement dans le Grand Reims. Pourtant, le Grand Reims, c'est 140 communes autour de Reims, c'est pas rien. Et bah, j'irai heureusement, là, je vais dire du bien de la présidente, mais heureusement qu'on a eu une présidente qui était députée avant, qui connaissait parfaitement la circonscription, parce qu'elle était sensibilisée au monde rural, elle le connaît très bien, et elle veille justement à ce qu'il y ait un équilibre urbain-rural et que les maires soient bien engagés dans le processus d'intercommunalité.
Alors, il faut rappeler que vous êtes actuellement vice-président du Grand Reims, plus précisément chargé, entre autres, de la voirie, c'est une lourde charge.
La voirie, les réseaux secs, c'est presque le sujet où les maires sont le plus sensibles, parce que c'est resté quand même chez eux quelque chose d'important.
Mais ça veut dire quand même que, même si une décision est prise au niveau du Grand Reims, on demande l'avis du maire. Le maire reste quand même un interlocuteur, j'allais dire presque quand même prioritaire. On peut pas faire contre lui quand même.
Alors déjà dans la gouvernance et dans le pacte de gouvernance, il y a ce qu'on appelle le droit de veto. C'est qu'on peut pas faire quelque chose chez les maires s'ils sont pas d'accord. Enfin, si les conseils municipaux sont pas d'accord. Ensuite, dans notre fonctionnement du Grand Reims, c'est pas la communauté qui décide au niveau des voiries, ce sont les maires qui, dans les regroupements, c'est-à-dire ce qu'on appelle les pôles territoriaux, proposent de faire des travaux, les actes ensemble, c'est-à-dire les valides ensemble, et la communauté, elle fait que finalement, vérifier que le budget est bien respecté, et elle fait la technique, mais elle ne choisit pas les voiries, c'est pas du tout ni la présidente, ni le vice-président que je suis, qui choisissons de faire les voiries dans les communes, ce sont les maires dans les conférences territoriales qui proposent.
Est-ce que vous avez avec Vendeuil en ce moment quelques projets en cours? Il y en a peut-être qui ont déjà été réalisés, et à court terme, à plus long terme, où en est-on à Vendeuil en ce moment?
Alors on est très content à Vendeuil, ça tombe bien cette émission, parce qu'on vient d'avoir une troisième fleur, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a un jury régional qui passe dans les villages et qui donne des fleurs en fonction de la qualité des villages. Alors on a déjà eu une première fleur il y a déjà 20 ans, une deuxième il y a une dizaine d'années, là on vient d'avoir la troisième, bon, c'est-à-dire qu'on monte les échelons, et il y en a quand même pas beaucoup qui ont une troisième fleur, on est très content. Alors moi je suis très content parce que ça encourage les équipes, parce que ce sont les équipes qui travaillent et qui fleurissent. Pourquoi alors on a eu cette troisième fleur? Bah, tout simplement parce que ils ont apprécié, j'allais dire, à la fois la qualité de l'environnement et du fleurissement, mais aussi la qualité des travaux qu'on avait fait sur le plancher architectural. Récemment, on a fait un aire de jeu et on a réaménagé complètement la place. Et puis récemment, on a eu la chance d'avoir un mécène qui nous a financé des vitraux dans l'église de Vendeuil.
Très jolis vitraux.
Qui est une église art déco et qu'on a eu l'honneur de voir inaugurer par notre archevêque de Reims.
Alors, il faut dire que ce travail de maire, il est quand même relativement prenant. Il y a même des maires qui ne veulent pas se représenter en disant « c'est trop de travail ». C'est pas facile pour un maire, il y en a qui nous écoutent, des Ardennes et de la Marne, de concilier parfois le fait d'être maire et la vie professionnelle, ou le fait d'être maire et la vie familiale. C'est du boulot d'être maire.
Alors moi, je l'ai concilié quand je travaillais, mais c'était à une époque où on avait encore, je dirais, moins de contraintes administratives et financières. Parce que maintenant, si on veut, on a des réunions pratiquement tous les jours, à des heures de travail. Donc c'est pas évident. Si vous êtes salarié dans une entreprise, vous pouvez pas dire à votre patron tous les 5 minutes, je m'en vais, je vais m'occuper de la commune. Il y a des fonctions qui permettent le plus de le faire que d'autres. C'est pour ça qu'on voit quand même beaucoup de retraités ou de gens de profession libérale, voire de gens agriculteurs, quoique ça diminue quand même, qui sont maires. Et c'est vrai, c'est une contrainte qui, moi, à mon avis, depuis 40 ans que je suis maire, je vois quand même cette contrainte se renforcer et ça devient quand même une mission très, très difficile avec un public exigeant et parfois agressif.
Dans la minute qui nous reste, ça va très vite, hein, François Moura, une petite question, parce que comme Vendeuil n'est pas très loin de Reims, est-ce qu'il y a une nouvelle population qui veut s'installer dans des communes, des belles communes comme Vendeuil, où un cadre de vie, où il y a du fleurissement, où il y a une belle place, une belle église?
Oui, alors tout à fait, d'autant plus que bon, on est à 20 minutes de Reims, il y a beaucoup de gens qui vont travailler à Reims, donc en plus, je vais vous dire, vous allez là où on est à Vendeuil, vous allez au cinéma Tillois en 10 minutes le soir, hein. Donc on est quand même pas loin de la grande ville, et on a toutes les animations de la grande ville, et ça attire forcément. Alors le foncier devient de plus en plus cher, donc ça devient de plus en plus difficile, et on s'aperçoit que les gens vont de plus en plus loin, et on a beaucoup de gens maintenant qui vont dans l'Aisne, c'est au-delà de notre village. Mais moi, dans mon village, il y a plein de gens qui viennent chercher des maisons ou des locations et qui trouvent pas parce qu'il y a pas.
On aura l'occasion de nous retrouver, bien sûr, François Moura. Juste une question qu'on pose à tous les maires dans cette émission. Êtes-vous un maire heureux?
Oui, parce que si j'étais pas heureux, j'arrêterais.
Merci François Moura. Votre maire nous parle. Direction Vendeuil aujourd'hui. À bientôt sur RCF. Au revoir.
Au revoir.
Merci François Moura. Merci Jean-Pierre Benoît. On vous retrouve tout à l'heure avec un autre maire, Jean-Pierre. Mais tout de suite, il est 18h30 à la pendule, tout presque, l'heure du journal régional. Les titres de ce mercredi 20 septembre, l'artiste rémois Barcella se produira à Charleville-Mézières dans 7 jours parmi un registre varié. Il proposera notamment les musiques de son album Mariposa sorti au printemps dernier. Le centre communal d'action sociale de la ville de Châlons-en-Champagne en partenariat avec le CLIC organise ce jeudi un ciné-débat sur la maladie d'Alzheimer.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Pour les plus fidèles à nos programmes, ça ne vous a pas échappé. On était hier soir en direct depuis la 22e édition du Festival mondial des théâtres de marionnettes qui bat son plein à Charleville-Mézières. Ça se poursuit jusqu'au week-end prochain. Et d'ailleurs, le maire carolo-massérien Boris Ravignon a annoncé sur Twitter que la ministre de la Culture, Madame Rima Abdulmalak, qui est déjà venue au Cabaret Vert mi-août, serait de retour dans les Ardennes ce dimanche pour la clôture du Festival des marionnettes 2023. Et on reste à Charleville où se produira dans 7 jours exactement l'artiste rémois de 42 ans, Barcella, revenu avec un nouvel album au printemps dernier, son cinquième, Mariposa.
J'ai eu 4 saisons avec 4 albums précédents et c'est le cinquième, c'est un nouveau printemps, c'est un nouvel envol, une nouvelle tournée et c'est les retrouvailles après quelques années difficiles avec un public qui nous a manqué. Ça reste toujours des carnets de route, hein. C'est l'envie d'y tricoter, d'y détricoter les émotions qui me traversent. J'y parle de mes rencontres, j'y parle d'absence, j'y parle d'espoir, j'y parle d'enfance, j'y parle de soleil, j'y parle de foi, j'y parle de bonne étoile, j'y parle de tout ça.
Fidèle à ses habitudes, Barcella nous transmet ses émotions à travers des textes poétiques.
Toujours cette envie de raconter des histoires et puis d'aimer les mots et de les savourer. Donc oui, ça reste barcelien dans l'identité qu'est la mienne artistiquement. Après, j'ai une plume qui évolue avec l'âge. J'ai 42 ans, c'est pas tout à fait la même écriture que quand j'en avais 25. Mais je suis très heureux d'avancer, de trouver ma voix petit à petit, dans tous les sens du terme, avec ce chemin musical et avec un public de plus en plus fidèle et de plus en plus nombreux. Donc c'est chouette.
Un album qui rejoint son livre Les Papillons, sorti en 2021, où une certaine Marie Mariposa est l'héroïne du roman.
Marie Mariposa, c'était l'héroïne de ce premier roman qui est sorti au Cherche Midi. Et je me suis attaché à la sonorité musicale de ce nom. Et voilà, Mariposa en espagnol signifie papillon. Et c'était aussi ça, ce nouveau printemps, c'est cet envol, cette légèreté, cette envie, ce bruissement, quoi.
Le Rémois Barcella sera sur la scène du théâtre de Charleville-Mézières mercredi prochain à 20h. Des places sont encore disponibles en vous rapprochant de la billetterie du théâtre de Charleville-Mézières. C'est une autre Marnaise qui assurera la première partie en la personne de Silda. Dans le cadre de la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, ce jeudi 21 septembre, le Centre communal d'action sociale de la ville de Châlons-en-Champagne, allié à la Comète scène nationale, propose un ciné-débat en diffusant un film de 2020, Une vie démente, Peggy Dumez, animatrice de la plateforme de répit des aidants.
Une vie démente qui traite bien sûr de la vie, de la maladie d'Alzheimer, mais aussi les répercussions sur le rôle de l'aidant, tout ce que ça implique et tout ce que ça va engendrer comme difficulté pour l'aidant. On y parle également de la culpabilité, la gêne par rapport à la maladie, les difficultés à la non-acceptation de la maladie de l'aider. Hein. Suivi sur chaque séance, un débat avec le docteur Malouli, qui est médecin gériatre spécialisé sur le rôle de l'aidant dans les maladies neuro.
C'est aussi l'occasion de présenter une structure dédiée aux aidants des malades, la plateforme Répit, Peggy Dumez.
La plateforme de répit existe depuis un an. Donc, il y en a deux dans la Marne. La première est sur Reims. La deuxième est implantée à Châlons. Donc, j'interviens sur 55 communes. Ça reste un secteur assez vague. La plateforme, elle est là pour accompagner l'aidant, hein, soutenir l'aidant. Beaucoup de choses existent pour le malade, mais l'aidant se sent parfois seul et il a besoin de soutien, d'être guidé aussi vers où orienter l'aider, hein, pour avoir du repos, du répit. On travaille avec les différentes structures d'accueil, hein, l'accueil de jour, les ZAD, les services d'aide à domicile, le département pour mettre en place les plans repas, des moments de rencontre entre les aidants, co-anime aussi le rendez-vous des aidants de Châlons, qui a lieu le deuxième mardi de chaque mois à la brasserie du Jard. Et on a pour projet aussi de développer un rendez-vous des aidants milieu rural sur Saint-Germain-la-Ville.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Deux séances seront proposées demain au cinéma La Comète à 14h et à 20h15. À midi, chez nos confrères de l'Union, était effectué le tirage au sort du quatrième tour de la Coupe de France de football. La patineuse de vitesse Véronique Pierron et le footballeur en l'ancien capitaine du Stade de Reims, Michael Tacalfred, ont tiré au sort les affiches des 156 clubs de la région Grand Est, parmi lesquels une curiosité, le club sportif Sedan Ardennes, qui évolue de façon anormale cette année en Régional 3. Sedan se déplacera sur la pelouse du club voisin de Cheveuges, qui évolue en D1, qui est entraîné par l'ancien attaquant justement des Sangliers, gloire des années 2000, Cédric Mionnet. A noter au passage qu'au moment où l'on parle d'une fusion du club sportif Sedan Ardennes avec l'Olympique de Charleville-Mézières, Aucna et Prix des Mézières, les deux derniers cités se diffieront pour ce tour de coupe, match samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, selon un calendrier à affiner. Ainsi se referme ce journal, le 18-19 en Champagne-Ardennes continue.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
RCF Reims-Ardennes, RCF Cœur de Champagne, RCF Champagne-Ardennes avec le DAB+, le magazine régional dans toute la Champagne-Ardennes sur RCF. On poursuit ce magazine ce mercredi avec la programmation 2023-2024 de l'EPCC Bord de Seine de Vitry-le-François qui sera présenté au public au cours de 3 jours festifs appelés C'est parti qui débuteront ce jeudi 21 septembre par un apéro mixte et se prolongeront jusqu'au samedi 23 septembre avec des jeux pour les plus jeunes. Pour nous en parler de cette saison, nous sommes avec Henri Didona, directeur de Bord de Seine.
Bonjour, nos invités aujourd'hui, c'est Bord de Seine, qui se trouve donc à Vitry-le-François. La nouvelle saison démarre. Pour en parler, j'ai près de moi Henri Didona. Bonjour.
Bonjour.
Directeur de cette structure des Bords de Seine. Monsieur le directeur, c'est parti, c'est le nom de votre programme.
Oui, en fait, on s'est amusé, puisque ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé, mais là, on a 3 jours d'affilée, les 21, 22 et 23, et c'est l'occasion pour nous de renouer avec le public, et puis surtout de communiquer, parce qu'on a beaucoup de nouvelles choses qui apparaissent sur la programmation et sur le fonctionnement avec le public cette année. Les 3 jours vont être accompagnés par un collectif, La Cagette, qui sont un collectif d'amuseurs qui vont en même temps nous amener un peu de déco et tout. Le 21, c'est l'apéro mix avec Cotton Over. Et on va travailler avec les locaux et on organise un karaoké live, c'est-à-dire qu'on va, avec le groupe Brainstorming, inviter le public à monter sur scène, accompagné de vrais musiciens. Et le samedi, on finira par quelque chose en famille, plutôt à partir de 17h. Les enfants seront invités à des jeux, des courses et tout ceci en musique.
Première date de votre programme.
Dire la période de septembre à janvier est complètement calée. Et ensuite, on a des dates sur le prochain semestre, plutôt des dates art de la scène, spectacle en famille et tout ceci. Et la programmation musique actuelle se complétera petit à petit. Alors, les dates importantes pour nous, on peut faire un petit coup de projecteur le samedi 7 octobre avec Agoro, qui n'est pas du tout connu, mais c'est un partenariat avec le NJP de Nancy et c'est intéressant de voir qu'on a ce travail collaboratif avec un des plus grands festivals du Grand Est qui fête d'ailleurs ses 50 ans et c'est un concert boost chez nous, c'est-à-dire gratuit pour les adhérents. Juste après, on a Yanis Odua le samedi 14 octobre et là, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à découvrir. C'est un grand monsieur du reggae qui, sur scène, s'est complètement emballé le public. Et je vous invite vraiment à venir samedi 14 octobre. Et puis, derrière, on a un temps plutôt consacré aux festivités et à la danse. On avait déjà l'année passée fait une soirée baltrade. Et cette année, c'est Bal au Gadjo qui sera là le samedi 4 novembre pour une soirée. Après, une grosse tête d'affiche dans le cadre en même temps de Eclectic Rock, les Fatal Picard le samedi 18 novembre. Dans Eclectic Rock, toujours Mademoiselle K le vendredi 1er décembre, qui est une artiste assez indépendante qui était restée, je crois, pas loin de 5 ans sans faire d'album et qui revient sur scène. Vraiment, je vous invite à la voir, c'est quelque chose de très bien aussi. Dans ce qui est à la fois musical et un événement scénique important. Les Vrais Gueules se mettent en quatre. Les Vrais Gueules, c'est un spectacle à la fois humour, musique, bien pensé, très théâtral. C'est le vendredi 15. Et pour finir sur cette période déjà programmée, on a le concert de Ange le 2 février. J'ai passé très vite en revue tout ceci, mais voilà, je vous invite à aller sur le site, découvrir le programme. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à venir.
Un entretien réalisé par Gérald Gaillet de la rédaction de RCF Cœur de Champagne. Parmi les invités exceptionnels de la saison sont attendus Catherine Ringer le samedi 9 décembre ou encore Pierre Richard, ça sera le dimanche 14 janvier 2024. Renseignements sur le site bordescène.fr ou en téléphonant au 03 26 41 00 10. Bordescène, c'est au pluriel B-O-R-D-S, 2 en chiffres, scène au pluriel, .fr, le numéro de téléphone 03 26 41 00. 10.
Le 18-19 sur RCF.
On vous avait promis dans l'introduction, dans le sommaire de cette émission, deux maires pour le prix d'un. Ce soir, Jean-Pierre Benoît est resté avec nous. Il est fidèle au 18-19 en Champagne-Ardenne, évidemment en direction les Ardennes, entre Sedan et Charleville-Mézières. Plus précisément à Villers-sur-Bar avec Christophe Heller.
Christophe Heller, bonjour.
Bonjour monsieur Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous monsieur le maire. Alors vous le savez, notre émission a pour but de connaître votre commune, de vous connaître, de vous encourager parce que vous avez un certain nombre de réalisations. Est-ce que vous pouvez nous présenter de façon très générale Villers-sur-Bar dans les Ardennes, où ça se trouve parce que tout le monde ne connaît pas forcément et puis combien d'habitants?
Alors nous, comme vous l'avez dit, nous sommes situés dans les Ardennes, nous sommes à 5 km de Donchery sur l'axe Charleville-Sedan. On est à 20 km de Charleville et à peu près à 7 km de Sedan. Nous comptons 250 habitants. Nous sommes dans la vallée de la Barre, qui se jette justement dans la Meuse, dans notre village. Et nous faisons partie de la communauté d'agglos d'Ardennes Métropole.
Alors évidemment, vous-même, vous êtes maire depuis plusieurs années, hein, je crois, Christophe Heller.
Oui, c'est ça. Je suis maire depuis 2013. Je suis au conseil municipal depuis 2008, où j'étais premier adjoint. Et puis 2013, on a dû refaire une élection anticipée. Donc j'ai terminé le mandat sur un an de maire. Et puis j'ai enchaîné depuis 2014. Et puis jusqu'à aujourd'hui, je suis maire de la commune de Villers-sur-Bar.
Alors justement, Christophe Heller, comment peut-on caractériser votre commune aujourd'hui, Villers-sur-Bar? Les activités, les habitants, des retraités, des jeunes, des moins jeunes qui vont travailler à Sedan ou travailler à Donchery ou à Charleville?
Mais en fait, c'est tout à fait ça. On est un village qui constitue à peu près d'un tiers de retraités, on va dire, qui sont souvent issus de familles du village ou des petits villages aux alentours, hein, qui sont ancrés. On a encore 4 fermes et un artisan, on va dire, qui travaille pour les agriculteurs. On a quelques artisans aussi en maçonnerie. Et puis le reste, les deux tiers, on va dire, c'est des actifs qui, effectivement, se partagent le trajet. Parce que souvent, l'homme ou la femme travaille soit à Sedan, soit à Charleville. Et comme on est dans un axe vraiment... central, donc les couples s'installent à Villers-sur-Bar, je pense, pour ces raisons-là.
Alors, le maire, dans un village, il est souvent sollicité. Vous connaissez tout le monde, hein, Christophe Heller, vous connaissez tout le monde.
Ouais.
Alors, il y a beaucoup de maires quand même qui hésitent maintenant à se lancer parce qu'il y a quand même pas mal de responsabilités, ils hésitent quand même. Vous avez pris la charge déjà presque depuis 9-10 ans. Mais vous aimez cette mission, cette fonction?
Oui, c'est sûr qu'au départ, moi, ça m'arrive un petit peu comme ça. C'est que j'étais pas spécialement parti pour être maire. Après, c'est arrivé par un concours de circonstances. Après, oui, il faut aimer les gens et aimer aider les gens, surtout. Surtout dans un petit village comme le nôtre, on n'est pas là pour développer l'économie ou on laisse ça, on va dire, aux instances de... Ardennes Métropole, mais on est là pour faciliter la vie des gens et puis leur apporter un petit confort les moments où ils passent dans le village. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un engagement parce que en dessous de chaque signature, il y a quand même le fait de s'engager en son propre nom. Et puis moi, ce qui me préoccupe, c'est de ne pas justement de laisser on va dire, d'embûches pour les générations qui arriveront derrière nous. Quoi.
Préparer l'avenir et pas voilà, mettre des problèmes sous le tapis. Alors justement, les communautés de communes, et en particulier les agglomérations comme Ardennes Métropole, est-ce qu'ils ont modifié votre rôle? Est-ce que vous avez le sentiment quand même d'être un peu encore le patron chez vous? C'est-à-dire que le maire reste quand même l'interlocuteur, le premier de base qu'on rencontre?
Bah écoutez, non, je pense que après c'est pas le fait des intercommunalités, hein, c'est le fait du législateur qui a décidé de justement d'enlever toutes les compétences de la mairie et de les donner soit à d'autres organismes ou alors surtout aux communautés de communes. Et en fait, non, clairement, on n'est plus trop maître de notre destin. On n'a plus l'eau. Enfin, on n'a plus d'eau, on a toujours de l'eau. Mais bon, on n'a plus la compétence de l'eau. L'urbanisme, on le cède à la commune d'Aglo. Voilà, il y a beaucoup de choses comme
mais
ça.
Quand même, monsieur le maire, je vous interromps, mais on a eu d'autres maires qui ont dit « Bon, d'accord, on nous a pris un certain nombre de responsabilités, mais il y a certaines décisions qui ne peuvent pas être prises si on n'est pas d'accord. » Je ne sais pas, vous n'avez pas un pouvoir de veto, mais vous pouvez dire « Voilà, je suis quand même... Vous avez quand même un rôle important.
Il en reste plus. Oui, mais il en reste plus beaucoup, honnêtement. Après, bon, quand je vous dis qu'on n'a plus de compétences, on reste quand même dans la communauté d'agglo et on fait partie des commissions. Et donc notre rôle, il est là. C'est dans les commissions, c'est là qu'il faut faire le travail qu'on ne peut plus faire dans notre commune. Mais oui, effectivement, il nous reste toujours une part de, on va dire de.
Responsabilité.
De responsabilité. Sauf qu'en fait, la configuration d'Ardennes Métropole fait que on est entre deux grosses villes qui forcément ont beaucoup plus d'intérêt ou de choses à faire que nous. Et nous, les petites communes de 200, en général, on est à peu près entre 200 et 500-600 habitants. Et nous, on n'a pas du tout les mêmes intérêts que les deux grosses villes. Et après, voilà, on fait ce qu'on peut. Mais c'est vrai que la configuration d'Ardennes Métropole est pas par rapport aux crêtes ardennaises, où là j'ai l'impression quand même que les communes sont à peu près plus de la même taille. Quoi.
Alors, parce que le temps passe forcément très vite avec vous, Christopher, on aura l'occasion de vous retrouver. Je suis obligé d'aller un petit peu plus vite parce que, est-ce que vous avez des projets, même au niveau de la commune, en cours, à court terme, moyen terme, long terme, quelque chose que vous êtes en train de mettre sur les rails en ce moment?
Alors on a terminé des garages qu'on a créés nous-mêmes pour pouvoir les mettre en location. Donc là, ils sont mis en location depuis l'année dernière. On a notre salle des fêtes qui vient de sortir de terre. Mais bon, on a un petit litige qui concerne la fête sceptique. Donc on a bon espoir de l'ouvrir dans fin d'année ou début d'année prochaine. C'est un gros projet qui a été aussi financé par l'Europe et la région. Et puis, également, on va réhabiliter l'ancienne mairie qui se trouve à l'étage pour faire une location pour accueillir une famille dans notre village.
Bon, il nous reste à peu près une minute, Christophe Heller. Compatibilité entre maire et vie professionnelle, maire et vie familiale. Comment ça s'arrange tout ça?
Bah écoutez, ça va pas trop mal, oui, on essaye quand même de pouvoir lier les deux. Bon, j'ai la chance d'avoir une épouse qui est compréhensive, et puis ça peut être des semaines assez chargées.
Des semaines chargées, oui.
Et puis à des moments un peu plus, mais bon, globalement, ça se gère bien.
Ouais. Alors, on se quitte simplement par la question qu'on pose à chaque fois, à tous les maires. Est-ce que vous êtes un maire heureux? Moi, je sens que vous êtes heureux quand même. Il nous reste 15 secondes.
Bien sûr, je suis heureux. Mais dans ma vie, comme dans mon rôle de maire.
C'est votre tempérament.
Oui. Puis bon, écoutez, on nous a pas poussé. Hein.
Merci en tout cas, Christophe Heller, maire de Villers-sur-Bar, d'avoir été avec nous. Et très bonne journée. À bientôt sur RCF.
Merci, Benoît.
Au revoir.
Merci Christophe Heller, merci Jean-Pierre Benoît. On vous retrouve Jean-Pierre évidemment tous les midis avec un maire qui nous parle de sa commune, ce qui permet aussi de connaître le territoire des gens qui sont les acteurs aussi de ce magazine régional du 18-19 en Champagne-Ardenne.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Peut-être que vous ne le savez pas, mais ce mercredi est la journée internationale du sport universitaire. À cette occasion, pour ces 10 dernières minutes passées ensemble ce soir, RCF vous propose de découvrir la 6e édition de la course 4C, la course colorée et festive, organisée par la Ligue Grand Est du sport universitaire, qui aura lieu ce samedi 23 septembre à Châlons-en-Champagne. Un rendez-vous qui ne cesse d'évoluer, comme nous le présente Laurent Duclos avec l'ami Christopher Fausten.
Bonjour Laurent Duclos.
Bonjour Christopher.
Directeur de la Ligue Grand Est du sport universitaire sur le site de Reims. Merci d'être notre invité aujourd'hui sur RCF pour évoquer cette 6e édition de la course 4C, la course colorée sur plusieurs kilomètres faisant le tour de la ville circassienne Châlons-en-Champagne fin septembre. Une nouvelle édition avec beaucoup de nouveautés, Laurent Duclos.
Oui, chaque année, on se remet un petit peu en question pour savoir ce qu'on pourrait apporter davantage sans non plus se mettre en péril, notamment sur le plan financier. Pour fidéliser notre public, leur en donner davantage, qu'ils prennent encore davantage de plaisir. Et cette année, on s'est dit qu'après une première expérience réussie de disposer, par exemple, des structures gonflables sur le parcours, on allait en disposer davantage, puisqu'on s'est aperçu, par exemple, qu'il y avait un petit peu de bouchons à l'entrée des structures gonflables. Donc là, par exemple, on va démultiplier ces structures et on en trouvera à 3 points de la course, ce qui va permettre à tout à chacun de pouvoir s'amuser ces structures sans forcément non plus ralentir trop le rythme de la course.
De nouvelles animations, également un parcours modifié, plus de participants, bref, la course 4C évolue chaque année.
Oui, alors il y a certaines contraintes auxquelles on s'adapte, on évolue, et ça, je remercie vraiment la ville de Châlons-en-Champagne et la direction du centre-ville pour son accompagnement sur cet événement. Effectivement, cette année exceptionnelle, hein, Coupe du monde de rugby de 2023 et la place Foch, village rugby organisé par le COC et la ville. Donc on s'est décalé un petit peu pour prendre le départ depuis la place de la République et puis après aller un petit peu à l'encontre, à l'envers du circuit traditionnel emprunté par la Kitsé. Ça apportera un petit peu de nouveauté et on s'engouffrera très rapidement dans les jars, le petit jar. Ensuite, on partira sur le cours d'Ormesson, boulevard Vaubécourt, porte Sainte-Croix pour redescendre après le long du canal vers le jar anglais et le grand jar.
Une course festive faisant également parcourir le patrimoine chalonnais ouvert à tous avec plein de surprises et surtout à la fin de cette course.
Oui, alors plein de surprises, effectivement, on l'a dit, hein, il y a déjà les gonflables, mais également on a essayé, moi j'adore la musique et j'essaye chaque fois d'amener un petit peu plus. Et là on aura 10 concerts en live sur le parcours, donc si on rapporte aux 5 km, ça fait quasiment un groupe tous les 500 mètres, ce qui est extraordinaire, hein, c'est-à-dire que j'attends du monde sur la course, mais j'aimerais également qu'il y ait beaucoup de monde, du public qui ne participe pas forcément à l'événement, mais qui vienne participer pour encourager nos coureurs et encourager également les artistes qui seront dans la rue. C'est jamais simple de jouer dans la rue, donc ça c'est un moment pour eux aussi qui peut être très agréable parce que c'est très particulier, il faut se mettre à la place d'un groupe, on est en train de jouer, les gens passent devant vous et ne s'arrêtent pour la plupart pas, donc c'est un cadre très très particulier, et donc s'il pouvait y avoir en plus des participants, ce serait magnifique. Et puis tu en as parlé, à l'arrivée il y a plein de choses aussi, hein, c'est-à-dire qu'on garde le principe de 2 DJ sets avec 2 DJ qui seront présents, Périx et Julien A qui se succéderont, et on terminera par le grand feu d'artifice qui devient également traditionnel, qui attire du monde, qui sera tiré à 21h45. On est sur un format un petit peu compact pour garder un maximum de monde sur l'aire d'arrivée après la course. L'idée, c'est que les gens restent et profitent de l'événement tous ensemble. Je rappelle également que l'aire d'arrivée est accessible à tout à chacun. Il n'est pas nécessaire de participer à la course pour venir sur l'heure d'arrivée et profiter des animations. Il y a quelques animations qui sont réservées aux participants. Je pense notamment à l'éjecteur, cette structure qui envoie les participants à 40 mètres de haut en une fraction de seconde. Le toboggan gonflable également qu'on met à disposition des jeunes participants. Donc celle-là, c'est réservé aux participants. Mais sinon, le concert, les bars, la restauration, tout ça est ouvert au grand public. Et au contraire, il faut venir nombreux pour profiter de l'événement. Ce que je souhaite, c'est vraiment que cette course ne m'appartienne plus quelque part et qu'elle appartienne aux Chalonnais, à ses commerçants, au grand public chalonnais, à ses entreprises et surtout à ses étudiants, parce qu'au départ, c'est un événement entre étudiants.
Laurent Duclos, directeur de la Ligue Grand Est du sport universitaire sur le site de Reims, avec nous aujourd'hui sur RCF pour nous évoquer cette 6e édition de la course 4C qui se tiendra fin septembre dans la cité chalonnaise. On le disait il y a quelques instants, une course qui doit appartenir aux Chalonnais, j'ai envie de dire. Pas seulement, parce que on s'ouvre un petit peu en territoire de la Marne avec différents étudiants, différents partenaires, collaborateurs, établissements scolaires aussi.
Oui, complètement. Là, on a fait un tarif qui est très spécifique en direction des lycées chalonnais. Pourquoi les lycées ? Tout simplement parce que je représente la Fédération française du sport universitaire. Les lycéens sont nos futurs licenciés lorsqu'ils arriveront dans l'enseignement supérieur. Et je souhaite qu'ils aient déjà entendu parler positivement de notre fédération et qu'ils soient enclins à venir prendre leur licence lorsqu'ils arriveront dans le supérieur. Effectivement, on s'ouvre, puisque lorsqu'on analyse déjà un petit peu les données des années précédentes, on s'aperçoit que au fur et à mesure, le cercle véritablement qui définit les participants, eh bien, s'agrandit. Il n'est pas rare d'avoir des participants au Marnais qui viennent, des participants au Bois, Ardennais, mais également un petit peu plus loin, puisque maintenant, on sait qu'il y a des gens qui viennent de Lille pour faire la course. Et on en fait venir aussi, puisque là, il y a 300 étudiants qui doivent venir de Lille juste pour faire la 4C, notamment. Pourquoi ? C'est parce que c'est l'ambiance, quoi. Le secret de notre recette, c'est tout simplement que c'est un événement de rentrée étudiant ouvert au grand public. Et les gens adorent connaître ces moments estudiantins. Ça, pour certains, ça leur rappelle leurs primes années. Et pour d'autres, c'est de baigner dans cette ambiance festive, carnavalesque, véritablement, qui fait qu'ils passent un excellent moment.
Laurent Duclos, une journée festive est attendue dans les prochains jours. On va rappeler la date dans un court instant. Une journée festive, mais qui demande forcément une grande mobilisation. 170 bénévoles autour de cette grande journée de la course 4C colorée du côté de Châlons-Champagne, en collaboration avec la mission locale de Châlons-Champagne.
Une fois de plus, on a signé une convention avec la mission locale pour une nouvelle année de fonctionnement sur cet événement. J'en suis très heureux puisque si cette manifestation peut mettre le pied à l'étrier de jeunes qui cherchent un petit peu leur voie, eh bien, ça fait partie de mes missions. Et donc, j'en suis très satisfait et ça fait partie de mes valeurs également. Donc, c'est vraiment un point très positif. C'est le cas également d'ailleurs avec les services militaires volontaires avec lesquels nous fonctionnons. Ça permet à ces jeunes de vivre une manifestation d'ampleur et d'être au contact du grand public, ce qui peut être chez certains un facteur un petit peu bloquant parce que des problèmes de communication, des problèmes de confiance en soi. Je m'en suis aperçu l'an passé avec les premières collaborations qu'on a pu avoir notamment avec la mission locale, et donc ils sont très bien encadrés. Moi, je travaille beaucoup avec l'encadrement pour que ils connaissent précisément leur mission et surtout qu'il y ait un maximum de bienveillance vis-à-vis d'eux.
Avant de nous quitter, Laurent Duclos, on rappelle la date, inscription sur Internet, en ligne, sur place.
La date, ce sera samedi 23 septembre, toujours le troisième samedi du mois. Donc maintenant c'est gravé, gravé dans le marbre, c'est le troisième samedi du mois, donc 23 septembre cette année. Pour s'inscrire, il y a deux possibilités. La première et la plus rapide, c'est certainement de s'inscrire en ligne sur le site course4c.com. Donc course, le chiffre 4 et c'est avec .com derrière. Il suffit de créer un compte et ensuite on peut inscrire au fur et à mesure des participants jusqu'à arriver à faire des véritables équipes. Cette année, on a un très très grand nombre d'équipes, de grosses équipes même, donc des gens qui viennent courir ensemble, partager un bon moment. Et on est très heureux parce qu'en plus pour eux, les tarifs sont bien plus avantageux. Donc ça marche très très bien. Et ensuite, pour nous suivre sur les réseaux sociaux et connaître un petit peu toutes les animations qu'on va vous proposer, eh bien, c'est @course4c, que ce soit sur Facebook ou Instagram.
On donne rendez-vous à nos auditeurs le 23 septembre pour la 6e édition de la course 4C du côté de Châlons-Champagne. Merci Laurent Duclos, directeur de la Ligue Grand Est du sport universitaire. À très bientôt et d'avance, eh bien, bon courage pour cette nouvelle édition.
Merci Christopher, n'oublie pas tes baskets.
Je prépare ça.
Merci Laurent Duclos et Christopher. Près de 3000 personnes sont attendues ce samedi à Châlons-en-Champagne. Infos et inscriptions sur le site course4c.com. Ainsi se referme ce magazine régional. Ce soir, on est de retour demain, jeudi, 18h10, pour un nouveau magazine. De nouveaux invités, les habitués comme Gérard-Marie Henry, un nouveau maire qui nous parlera, et puis d'autres initiatives en région que l'on vous présentera, notamment à l'intérieur du journal régional de 18h30, mais aussi des rendez-vous en local avec l'information dès demain matin à 7h avec vos différentes rédactions RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes. Dans quelques instants, c'est l'information nationale avec la rédaction nationale, ça va de soi, du réseau RCF, très bonne soirée en compagnie de nos programmes. Et sur RCF Reims-Ardennes, on n'oublie pas à 19h12 la méditation avec le père Thierry Bettler et les équipes du diocèse de Reims et des Ardennes. Cette fois, c'est définitif. Une bonne soirée, à demain à 18h10, le magazine régional.